Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Andy Waugh et c'est l'heure de l'interview avec au studio Valérie Duménie. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Duménie, vous êtes directrice générale. Ma bouteille s'appelle Reviens. C'est ainsi que, en 2017, vous vous êtes engagée dans le réemploi du verre. Et donc, vous vous êtes dotée d'équipements qui permettent de stériliser, de nettoyer des contenants en verre, que ce soit des bouteilles, des bocaux peut-être, vous nous expliquerez. Et avant tout, vous êtes là aussi pour nous annoncer l'agrandissement de cette structure. Donc, elle a pris de son importance depuis sa création. Et il y a une certaine fierté d'ailleurs de cet aspect.
Oui, bah oui, c'est chouette de voir une structure territoriale grandir et croître au regard et de la demande et surtout de l'impact environnemental et sociétal que cette structure a, mais on va en reparler.
Alors l'idée, vous était venue à l'époque avec une conscience certainement du recyclage, mais aussi de l'écologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que permettait, selon vous, cette réutilisation du verre par rapport à l'écologie ?
Oui, effectivement, la structure a été créée face à un constat, en fait, et surtout à un constat d'usager du territoire, c'est-à-dire des brasseurs, des citoyens, d'autres producteurs qui clairement disaient « mais pourquoi casser le verre alors qu'on peut le réutiliser ?» Donc, ma bouteille s'appelle Reviens, qui a été créée en tant qu'association en 2017, mais qui s'est transformée en 2021 en société coopérative d'intérêt collectif. C'était l'objectif, une association de préfiguration qui a permis d'expérimenter le retour de la consigne en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il faut bien noter que la consigne, comme tout le monde le sait, avait disparu. Donc, il a fallu réinventer la boucle du réemploi sur un contexte quand même social et usager également, qui avait bien changé des années 60. On n'est plus sur les mêmes types de bouteilles, on n'est plus sur les mêmes modes de consommation, etc. Donc, les 2-3 premières années ont permis de tester, de créer ce réseau à la fois de points de collecte, mais aussi de producteurs qui allaient adapter leur contenant en verre pour qu'ils puissent être lavés. Et c'est ainsi que, du coup, cette transformation en SIC a aussi permis de révéler l'ambition du projet qui était de devenir une structure de territoire, vraiment à l'image de ses usagers et favorisant la résilience de son environnement.
Alors, lors de cette création, il y avait peut-être une limite dans les possibilités de nettoyage de certains réceptacles qui sont très différents en fonction du produit, que ce soit bocaux ou bouteilles. Est-ce qu'il y a une adaptation qui s'est opérée aussi dans les flacons ou les bocaux avec des formats spécifiques ?
Oui, exactement. Il a fallu créer des standards, en fait. Donc, il y a eu un énorme travail de recherche et développement au niveau national, mais qui a été beaucoup porté par ma bouteille. Ça s'appelle Reviens, parce que c'est la première structure de lavage qui s'est recréée en France. Donc, très vite, les premiers salariés se sont rendus compte de la nécessité de créer un cahier des charges et des standards. Pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est la lavabilité, effectivement. Mais la deuxième, c'est aussi ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on puisse laver une bouteille qui vienne du nord de la France comme du sud, etc. Quoi, qu'il n'y ait pas de frontières dans ce cadre-là. Et la plus grosse contrainte qui a été révélée, ce n'est pas tant le format. Puisque aujourd'hui, on peut laver plus de 80 types de formats. Effectivement, beaucoup, on lave essentiellement du verre. C'est la plus grande majorité de nos produits. Mais à terme, on pourra laver les bocaux. C'est encore en expérimentation, les bocaux, mais on y reviendra. La plus grosse contrainte, en fait, c'est l'étiquette. Et c'est là où les choses ont bien changé depuis l'époque où la consigne existait. C'est que ce n'est plus les mêmes cols, ce n'est plus le même papier, etc. Donc, dès les premiers lavages, qui étaient certes artisanaux, mais qui permettaient de voir un peu comment faire ressortir une bouteille nickel, en gros, la plus grosse problématique, c'est l'étiquette. Donc, il a aussi fallu travailler un cahier des charges étiquette avec des cols soluble à l'eau, en fait. Et c'est là qu'aujourd'hui, du coup, on a, pareil, quand même un certain nombre de types d'étiquettes qui peuvent être collées par les producteurs et qui permet, au final, aux producteurs de s'adapter quand même largement aux contraintes du réemploi, sachant que, en gros, ce qui marche le mieux, c'est l'étiquette d'avant. Mais ce n'est plus aujourd'hui la demande. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails techniques des étiquettes, mais il y a un vrai enjeu par rapport à ça.
L'entreprise est basée à Chabeuil. Vous parliez donc de réception du nord, du sud de la France. Vous êtes très étendu dans cette mission donc, du recyclage.
Effectivement, ça a commencé en Drôme-Ardèche, qui sont des territoires sur lesquels on collecte toujours. Hein, on reste ancré, pour nous c'est très important, mais on est les laveurs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des partenaires collecteurs dans d'autres départements que la Drôme et l'Ardèche. Et on lave aussi actuellement pour la région PACA, parce qu'il n'y a pas de laveur là-bas. Donc on a un partenariat spécifique avec la région qui nous aide, qui nous soutient pour qu'on puisse laver les contenants qui viennent de PACA, jusqu'au jour où il y aura la possibilité et le volume nécessaire pour qu'il y ait des laveurs en PACA. Nous, on prône beaucoup la territorialisation de ce type d'activité et on est dans un réseau qui s'appelle France Consigne, un réseau national où on est 6 laveurs aujourd'hui en France. Notre rêve, c'est qu'il y ait un laveur par région, mais aujourd'hui, chaque laveur n'a pas encore atteint sa pleine capacité, donc c'est pas évident de créer une unité de lavage sans qu'il y ait le volume. En revanche, c'est aussi comme ça qu'on arrive à atteindre le fameux impact environnemental, hein, parce que la différence entre le verre cassé et le verre lavé, il est incommensurable au niveau de l'impact, que ce soit en termes d'émissions de CO2, de production de déchets, évidemment. Et c'est vrai que ces distances entre le lieu de production, le lieu de consommation et le lieu de lavage est quand même important.
Je me souviens, jeune, en Lorraine, il y avait des bouteilles consignées. On ramenait les bouteilles dans les commerces. On peut voir ça aussi en Suisse. Est-ce que cette notion de la consigne s'instaure aussi petit à petit? Est-ce que c'est une politique qui s'engage dans ce domaine?
Effectivement, en Alsace, la consigne n'a jamais disparu, tout comme en Suisse et tout comme en Allemagne. Donc le geste du réemploi, il est très ancré dans la population et on a des taux de retour de contenants en verre dans ces lieux-là qui atteint presque les 100%. Au niveau politique, on a une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est une trajectoire qui a été adoptée il y a plusieurs années déjà, qui annonce que 10% des emballages ménagers mis sur le marché doivent être réemployables à horizon 2027. Donc 10%, nous, c'est ce qui nous permettrait d'être en pleine capacité dans notre unité de lavage. Or, cette loi, elle n'est pas coercitive, elle est juste incitative. Donc on est vraiment sur aujourd'hui des personnes qui sont motivées, qui ont plus qui ont cette conscience environnementale et sociétale et locale. Il n'y a pas de loi qui impose et malheureusement là c'est une loi qui est en débat actuellement et il y a les lobbies du plastique notamment et des verriers évidemment qui ont beaucoup plus de force de frappe que nos unités de lavage territoriales et du coup c'est un peu la bataille et nous on attend vraiment des pouvoirs publics qui suivent cette trajectoire environnementale et qui puissent imposer aux metteurs en marché, c'est-à-dire aux producteurs et aussi aux magasins de mettre à disposition des emballages réemployables aux consommateurs qui sont en forte demande de ça parce que les derniers sondages sur le sujet disent que plus de 92% des citoyens sont prêts à œuvrer pour le réemploi.
Et d'ailleurs, les politiques sont à convaincre encore, la population beaucoup moins. Apparemment, elle est partie prenante dans cette perspective. Et pour cela, il y a donc ces machines dont vous vous êtes dotés pour pouvoir nettoyer ces bouteilles. Il y en a une qui s'appelle le tunnel et l'autre la laveuse. Donc, vous pourriez nous rappeler rapidement leurs fonctions propres?
Oui, alors c'est deux types de machines différentes, mais qui ont pour objectif de laver. Le tunnel, c'était le premier outil de lavage où les tests ont eu lieu. Nous l'avons vendu il y a quelques semaines, preuve du véritable passage à l'échelle. Et effectivement, en 2022, on a introduit une véritable laveuse industrielle, donc qui peut laver environ 3500 bouteilles par heure. Ça en fait 15 000 à la journée. Et qui est ce qu'on appelle une machine par immersion, c'est-à-dire que les bouteilles, une fois rentrées dans la machine, vont tremper pendant 20 minutes dans un bain d'eau chaude à peu près à 80 degrés et un infime pourcentage de soude, nécessaire quand même pour pouvoir décoller les étiquettes et puis enlever tout ce qui est risque allergène, etc. Donc les bouteilles passent dans ce bain et ensuite passent à un premier étage où elles sont rincées à 4 reprises avec de l'eau déjà utilisée, qui permet d'être du coup très, très économe en eau. Et ensuite, un dernier rinçage, bien sûr, à l'eau claire, avant de passer dans une zone propre qui permet de vérifier que la bouteille n'ait pas de défaut et finir à la palettisation pour être ensuite renvoyée au producteur.
Voilà, le conditionnement, une fois les bouteilles nettoyées. Et pour cela, est-ce que vous avez des contacts qui se sont pérennisés avec des entreprises, justement, pour réutiliser leurs propres bouteilles ?
Oui, donc aujourd'hui, on a un réseau de 100 producteurs qu'on a accompagnés et qui ont du coup été certifiés réemploi, donc qui peuvent déposer, enfin qui doivent d'ailleurs déposer sur leur étiquette le logo, le pictogramme du réemploi qui montre aux consommateurs que cette bouteille peut être lavée. Donc c'est des clients, mais qui sont aussi sociétaires, c'est tout l'avantage de notre coopérative, et qui sont situés, du coup, nous, nos producteurs en Drôme-Ardèche, ça c'est ce qu'on appelle les metteurs en marché. Et ensuite, on a un réseau de clients plus vaste qui achètent les bouteilles. C'est là tout l'intérêt de la fameuse standardisation des contenants dont je parlais tout à l'heure. C'est que, par exemple, la bière de après l'orage, une fois lavée, peut être vendue aux gens sérieux ou à la pleine lune.
D'ailleurs, beaucoup de bouteilles sont similaires, hein. Même avec la Clairette de Die, il y a certaines bouteilles qu'on peut retrouver chez des brasseurs du Diois, par exemple. La démarche HACCP, quelle est-elle ?
HACCP, c'est une démarche hygiène et sécurité, en fait, qui est relative au secteur d'activité dans lequel on est. Donc nous, on dépend des normes agroalimentaires. Et effectivement, ça a été ça aussi un gros travail d'expérimentation. Et aujourd'hui, on est vraiment très solide sur ça pour permettre aux producteurs de leur prouver que nos bouteilles ne présentent aucun risque ni de casse, ni d'allergène, ni de traces, de soude, etc. Donc on a une responsable qualité au sein de l'entreprise qui va au fil des journées faire des tests en interne et en externe dans des laboratoires pour s'assurer que nous sommes irréprochables en matière de qualité. Ça, c'est un véritable enjeu pour notre filière, de garder la confiance des producteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les producteurs arrivent souvent avec une gamme qu'ils essayent de tester à mettre en réemploi. Ils sont satisfaits et puis ils mettent une deuxième gamme, une troisième gamme. Ça a par exemple été le cas de Chapoutier, que tout le monde connaît, dans le vin, qui a commencé il y a 2 ans avec nous à tester une gamme. Et aujourd'hui, on est à 12 gammes de chez Chapoutier qui sont chez nous. Et on est très fiers en fait, de voir aussi qu'on a un taux de fidélisation qui est de 100%. On n'a jamais perdu un seul producteur. Donc ça montre bien la satisfaction. On peut entendre que c'est un peu compliqué de passer au réemploi parce que ça demande de changer son étiquette, peut-être d'adapter son format, etc. Et on sait que les producteurs sont souvent pris par leur cœur de métier, hein, comme tout le monde. Donc ils vont y aller petit à petit, mais ils sont très satisfaits de l'accompagnement et ils voient bien que finalement, c'est pas si difficile. Et nous, on est toujours présents pour répondre à leurs demandes, qui parfois, ils ont des pics de demandes. Parfois, le prix du verre est très élevé. C'est notre principal concurrent, hein. C'est le verre neuf. Et là, nous, nos prix sont toujours stables. On n'est pas très loin et on est une flexibilité. C'est l'avantage de la coopérative aussi. Et voilà, on a perdu 2 clients ces dernières années juste parce que malheureusement, ils avaient mis la clé sous la porte. Mais voilà, ça prouve notre professionnalisme.
Vous êtes aussi ici avec nous pour une inauguration à venir. c'est-à-dire un agrandissement de cette entreprise avec des possibilités accrues de capacité.
Effectivement, on est ravis aujourd'hui d'aller au bout d'un des projets de Ma Bouteille S'appelle Revient, parce qu'elle est en transformation presque permanente depuis 8 ans. Et là, on a un plan de développement 2025-2030 qui est en deux phases. En fait, la première, c'est la montée en qualité pour pouvoir atteindre ces fameux. Enfin, on vise la norme ISO 22000 pour le jargon, qui est la norme plus de l'agroalimentaire. Et pour ça, il fallait qu'on adapte le bâtiment au niveau isolation, au niveau risque nuisible, etc. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était l'installation d'une zone propre qui permette aux bouteilles sorties de la laveuse, donc propres, de ne pas croiser les bouteilles sales. On s'arrangeait à le faire jusqu'à présent, mais on ne pouvait pas prétendre aux normes ISO 22000 sans avoir cette fameuse, comme une espèce de boîte dans la boîte, tout hermétique et toute complètement fermée. Et en parallèle, l'achat aussi d'une ce qu'on appelle une inspectrice automatique, donc qui est un peu aujourd'hui notre goulot d'étranglement, c'est-à-dire que quand les bouteilles sortent de la machine, elles sont vérifiées. Et aujourd'hui, c'est l'œil humain qui le fait. Donc, c'est perfectible. Et surtout, donc c'est des gens qui sont formés, hein, donc ils font correctement leur travail. En revanche, du coup, l'œil est forcément plus lent qu'une machine. Donc, on ne peut pas nous accélérer la cadence à cause de ce mirage manuel actuellement. Donc, on investit dans une mireuse automatique. On est très fiers d'avoir dans quelques mois maintenant. Elle est en fabrication et qui va nous permettre d'accélérer un peu la cadence, de créer aussi un autre métier au sein de la structure, hein, celui d'une personne qui va régler la machine, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a un volet entreprise d'insertion et qui pour nous est une valeur très forte. Donc on a 7 opérateurs de lignes de lavage qui sont en insertion professionnelle. Et au-delà du fait que le mirage manuel est un métier très difficile, puisqu'on est face à un écran lumineux et qu'il faut être très concentré, ça nous permettra aussi de développer une autre compétence, plus de l'ordre de l'automatisation. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Donc voilà, pour revenir à la question, effectivement, on termine cette première phase d'investissement, de montée en qualité. Et on fait une inauguration le 2 avril prochain à Chabeuil pour fêter un peu et commémorer avec nos partenaires, nos clients, nos sociétaires, et puis les citoyens et les élus du territoire, commémorer un peu avec joie cette nouvelle marche franchie avant la prochaine, qui sera la montée en capacité et qui effectivement va nous obliger à investir dans une machine avec plus de capacité de lavage de bouteilles. Et là, on vise un horizon 2028. Et donc, on est en pleine montée, on est en plein appel à capital aussi pour agrandir la société coopérative, accueillir plus de personnes et nous permettre de renforcer ce capital qui est nécessaire, hein, dans une industrie, parce qu'on va être perpétuellement en investissement, en fait. Hein, c'est notre avenir.
Je reviens un peu sur les machines, hein, que vous utilisez. Vous parliez de cette
mireuse automatique.
Mireuse automatique, merci. Est-ce que ça nécessite un partenariat et aussi un travail collaboratif avec des ingénieurs ?
Alors, il n'y a pas de fabrication de ce type de machine en France, contre toute attente. Hein. Donc, on trouve ces machines en Allemagne ou en Italie. Ils sont assez bons, hein, dans ce type de machine. Ça demande un partenariat, client-fournisseur, en fait, parce que c'est des machines qui sont faites sur mesure avec un cahier des charges spécifique. On va vraiment adapter aux contraintes de lavage, etc. C'est pas des machines qui existent par dizaines, malheureusement, dans le monde encore aujourd'hui. Donc effectivement, on travaille avec les ingénieurs de fournisseurs pour adapter. Ça, c'est un travail qu'on a mené nous pendant plus de 6 mois. Hein, on est dans l'innovation technologique. Donc même eux, à chaque fois, inventent des nouvelles technicités qui permettent d'améliorer le fonctionnement, quoi.
Il y a trois parties, hein, qui sont prenantes dans votre démarche, ce sont les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Donc chacun est associé aussi à cette entreprise. Alors, quelle est leur particularité propre à chacun? Et là, je voyais par exemple pour le consommateur, il y a aussi peut-être une action à opérer, c'est de rincer peut-être la bouteille avant qu'elle soit retournée à la consigne.
Effectivement, on a ces trois parties prenantes. J'en rajouterai une quatrième qui est les collectivités. On en parlera. Le consommateur, non, il n'a plus besoin de rincer. Ça, c'était au début dans les tests, etc. Aujourd'hui, c'est OK. L'outil est assez performant pour adopter son propre rinçage. Non, ce que le consommateur a à faire, au-delà d'acheter du produit dans des contenants réemployables, donc on va retrouver des bières, des jus, de la kombucha, du vin, du lait. Il faut qu'il regarde le pictogramme, le fameux pictogramme sur la bouteille, qui est plus ou moins gros. Des fois, ça c'est un peu malheureusement pas forcément évident pour le consommateur, mais maintenant qu'il a l'habitude d'aller jeter sa bouteille au tri, hein, je pense que la majorité font ça, il faut qu'il check ce pictogramme. Et là, qu'il la ramène la bouteille dans des points de collecte. Donc, il y a un réseau de Andromardèche, il y a 70 points de collecte. À 10, par exemple, il y a la Vie Claire. Et qui viennent déposer sa bouteille à cet endroit-là.
Il y a encore du travail au niveau des distributeurs, donc, pour peut-être opérer cette consigne, ce retour de bouteille auprès de... L'activité commerciale, notamment?
Oui, effectivement. Au niveau des consommateurs, maintenant, c'est vraiment de la sensibilisation. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas encore au courant de cette possibilité-là. Au niveau des metteurs en marché et des points de distribution, du coup, c'est encore un autre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de grandes et moyennes surfaces sont dans la boucle du réemploi. On a beaucoup de ce qu'on appelle les surfaces spécialisées, donc Biocoop, La Vie Claire, les magasins de producteurs, etc., pour qui ça part. Juste logique en fait d'être dans le réemploi. Intermarché, Leclerc, etc. ont encore du mal à rentrer et pour nous, on sait que ça va débloquer le marché parce que c'est pas le même niveau de consommation et surtout, eux sont en capacité aussi de pouvoir acheter de ce qu'on appelle les collecteurs automatiques. Donc, qui est beaucoup plus simple pour les consommateurs, c'est-à-dire qu'ils vont déposer dans une grande boîte leur bouteille et récupérer le montant de la consigne en parallèle. Quoi. Donc là, nous, on travaille hein, dans une démarche commerciale avec ces distributeurs. Il y a aussi les éco-organismes qui font un peu, qui sont les bras droits de l'État de la gestion des déchets, qui essayent aussi d'impulser la motivation chez eux. Voilà, nous, on rencontre régulièrement tous les grands magasins qui peut y avoir en essayant de les motiver. Et ensuite, donc, les metteurs en marché, donc ces fameux producteurs hein, qui sont au démarrage de la boucle et qui, du coup, vont petit à petit mettre des gammes en réemploi. Donc là, pareil, je vous disais, on a une centaine de producteurs. Il y en a des centaines hein, en France, mais voilà, on n'est pas encore chez tout le monde. Et là, on invite vraiment les producteurs à nous contacter si on ne les a pas encore contactés, parce que c'est pas très compliqué. C'est ce que disent les producteurs qu'on a déjà accompagnés. Déjà, on est là pour les prendre par la main et faire ça avec eux. On a maintenant assez d'expérience pour les mettre en contact avec les imprimeurs adéquats, leur faire des tests, leur faire visiter l'usine pour qu'ils prennent confiance, etc. Donc, c'est vraiment c'est une démarche à avoir, mais on peut le faire. Et ensuite, on a notre quatrième partie prenante, qui est les collectivités. Alors là, on est sur une autre démarche. Hein, on est sur les responsables de la gestion des déchets sur les territoires. Et là, on est ravis d'avoir mis en place depuis le 1er janvier au sein de la 3CPS, donc la communauté de communes du Pays de Saillant et du Crétois, des points de collecte dans les trois déchetteries, Saillant, Oust, et Cré, pour pouvoir ouvrir encore davantage aux citoyens la possibilité d'aller ramener leurs contenants. On a formé aussi les agents de déchetterie, ça c'était un super moment parce que voilà, pour eux ça valorise vachement leur métier quoi, d'être dans le réemploi plutôt que d'aller enterrer des tonnes de plastique que les gens déposent tout le temps. Donc c'était une chouette expérience et on a rencontré la communauté de communes du Diwa et qui sont très motivés. Ça ce serait aussi faciliter vraiment la gestion des déchets pour les citoyens sur le territoire d'Iwa. Le problème, c'est qu'on rentre en période électorale, donc tout est un petit peu en pause, mais on espère que dès la fin, dès le vote, la dernière étape des élections, dès le vote de la nouvelle présidence de la communauté de communes du Diois, on pourra installer des points de collecte dans les déchetteries.
Justement, ces points de collecte dans les déchetteries nécessitent donc une présence humaine pour la gestion de cette collecte, ou alors est-ce que vous envisagez aussi peut-être des appareils qui soient adaptés à des endroits peut-être plus éparses dans le Diois notamment, ça peut être dans une des zones de Benne, par exemple. Est-ce qu'il y a cette possibilité à envisager?
Oui, alors actuellement, ça ne nécessite pas forcément la présence humaine. Bon, dans les déchetteries, dans les déchetteries, il y a toujours quelqu'un et puis il y a des horaires aussi. Donc voilà, pour nous, ça me paraissait important que les agents soient formés. Dans les magasins, pareil, c'est soumis aussi à horaires d'ouverture. Certains points de collecte ont des palox, on appelle ça des palox pour collecter à l'extérieur. Il faut que les citoyens, ils mettent bien les bonnes bouteilles à l'intérieur. Donc nous, on a toute une charte graphique et des panneaux pour expliquer. Mais bon, il y a toujours un tri hein, avant le lavage. De toute façon, on ne peut pas y remédier. Notre rêve, à ma bouteille s'appelle Revient, c'est qu'effectivement, il y ait ces fameux collecteurs automatiques à côté des bennes à verre, en fait. On sait que ça facilitera le geste citoyen. On sait que ça facilitera aussi pour les points de collecte. Hein, c'est aussi du boulot en plus. Faut mettre en avant et valoriser leur motivation quand même à rentrer dans cette boucle-là. Donc demain, on attend que la première collectivité en France, hein, parce que ça n'a pas encore eu lieu, puisse poser ce collecteur automatique dans un point d'apport volontaire à côté de la benne à verre. Comme ça, le citoyen, il arrive, il dépose tout son verre, il vérifie les logos et encore... Pas forcément, parce que dans ces collecteurs automatiques, hein, qui existent déjà, parce que c'est ce qu'il y a dans les grandes surfaces qui sont dans le réemploi, à l'intérieur, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui va trier la bouteille réemployable et celle qui ne l'est pas. Donc là, quand on sera passé à ça, on sait qu'on aura un taux de retour vraiment plus élevé et surtout des citoyens qui auront ce geste facilité, quoi.
Je reviens un peu sur la phase de nettoyage. Il y a l'utilisation de l'eau. Alors, quel est son cheminement dans cette entreprise et sa restitution dans la nature ?
Bonne question, technique. L'eau arrive du réseau. Hein. On arrive, en fait, déjà pour donner un chiffre intéressant, c'est que pour produire une bouteille neuve, il faut à peu près 1 litre d'eau, entre 75 centilitres et 1 litre d'eau. Une bouteille lavée utilise 33 centilitres d'eau. On dira, mais comment c'est possible? On la lave, en fait, donc on utilise plus d'eau. Eh bien, non, parce qu'en fait, l'eau, elle est gardée déjà une semaine. Hein. Nous, on garde, on a une cuve de décantation, on vide la machine une fois par semaine. Et ensuite, comme je vous disais, les quatre premiers rinçages sont faits avec de l'eau déjà utilisée. Il n'y a que le dernier rinçage qui est fait avec de l'eau claire. Ensuite, elle va dans cette cuve de décantation qui permet d'éliminer un petit peu les toxines, on va dire. Et ensuite, elle est rejetée dans le réseau. Chaque année, on est surveillé hein, par le réseau des eaux sur ça. Là, on vient d'avoir les résultats d'un test. On a une eau qui n'est pas du tout polluante. En tout cas, qui respecte les normes. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait très attention aux produits qu'on met dans notre machine. On a ces 2% de soude, mais le reste, c'est de l'eau, quoi.
À l'heure actuelle, on attend aller sur votre site. Il y a 9 personnes qui agissent au sein de cette entreprise, peut-être plus. Est-ce que cela va grandissant, et notamment avec cet agrandissement?
Oui, alors on est 18 personnes, avec du coup 9 personnes permanentes, on appelle, et 7 personnes en insertion professionnelle. Et ensuite, on a 2 personnes en alternance actuellement. Effectivement, ça va en grandissant. Il y avait 14 salariés fin 2024. Donc, en 2025, on a pu renforcer un peu l'équipe. Ce qui va surtout grandir, au-delà de, dans les années qui viennent, d'un back-office un peu plus fort. Hein, nous, notre enjeu, c'est d'avoir une unité de lavage performante. Donc, les 2/3 de nos salariés sont soit à la production, soit la logistique. Aujourd'hui, on est au 1-8 dans notre usine. On vient de passer les salariés à 4 jours semaine. Ils étaient à 3 jours et demi jusqu'à la semaine dernière. Donc, ça montre que l'activité grandit un peu. À la fin de l'année, si les volumes escomptées suivent les courbes, du coup, on pourra passer au 2-8, tout en gardant la même usine, la même unité, enfin, le même lieu, etc. C'est ça qui est assez chouette avec cette unité de lavage, c'est qu'en fait, on a une machine qui peut laver 3500 bouteilleurs. Aujourd'hui, on en a 2500. Donc, il faut bien se dire qu'on est quand même en sous-capacité, mais que la machine, l'outil de production nous coûte la même chose si on met 3 bouteilles dans la machine que si on en mettait 3500 par heure, en fait. Donc, on a vraiment un enjeu de volume pour atteindre notre point de rentabilité qui est crucial et qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup changer, là, à ce stade, dans les 3 prochaines années. Avec les travaux qu'on a fait, on va atteindre les normes, on a le temps de voir venir le volume, on passera l'équipe en 2-8. Après, nous, notre objectif, c'est de ne pas passer l'équipe en 3-8. On trouve que c'est compliqué niveau conditions de vie, quoi. Voilà, là viendra la marche, la fameuse deuxième levée de fonds de la montée en capacité. Et là, on devra probablement déménager, investir dans une nouvelle machine, etc. Mais bon, là, pour l'instant, on va profiter de ces travaux qui nous donnent un bel outil de travail.
Vous parlez de logistique, justement, ces récupérations de réceptacles en verre sont dispatchées sur le territoire. Comment s'opère la récupération? Est-ce que vous avez une autonomie dans ce domaine ou alors il y a un partenariat à établir aussi dans le transport avec les entreprises, les producteurs?
On a deux formules, effectivement. On a ce qu'on appelle la formule tout en un. Donc là où nous, on collecte en propre. Ma bouteille s'appelle Revient Collecte en propre en Drôme-Ardèche, dans nos points de collecte, donc qui sont à peu près à 70 là. On va collecter chez nos clients aussi, des fois, chez nos producteurs. Donc là, on a un camion et puis une personne responsable de la logistique et deux salariés chauffeurs en insertion qui vont faire des tournées régulièrement, enfin tous les jours en fait, hein, en réalité. Donc voilà, en plus, c'est un camion qui est floqué. Ma bouteille s'appelle Revient, le retour de la consigne en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça nous permet de faire un peu de pub aussi. Et ensuite, au-delà de Drôme-Ardèche, du coup, on a des partenariats très forts, effectivement, avec ce qu'on appelle des collecteurs, dont le métier, eux, c'est de collecter et de trier les bouteilles, les contenants en verre. Et notre principal partenaire, c'est Revera, qui sont présents dans tous les autres départements que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous amène quand même une bonne partie de notre volume. On a aussi le fourgon, qui ont une démarche intéressante parce qu'ils livrent à domicile dans des caisses. Donc, ils ont un taux de rotation qui est assez rapide. C'est avec eux qu'on lave du lait qui est produit en Ardèche. Eux, ils livrent partout en France. Mais là, on a une boucle vraiment très locale. Donc ça, c'est un partenariat dont on est très fiers parce que d'un côté, c'est facile à laver le lait puisque le taux de rotation est très rapide. Mais aussi, comme ils amènent chez les consommateurs et qu'ils viennent récupérer le casier, du coup, ça fait aussi... une rotation qui est très rapide.
Il y a cette notion du verre aussi, hein. Il y a le verre clair, translucide, c'est celui d'origine, d'un premier cycle. Et j'ai cru comprendre que les couleurs évoluaient en fonction du nombre de traitement de ce verre qui est refondu et reformé. Est-ce qu'il y a aussi cette notion par rapport à la couleur? Une bouteille verte, c'est issu d'un verre qui est déjà de nombreuses fois recyclé?
Alors, c'est une bonne question. Il y a effectivement plusieurs couleurs de verre hein, qui vont dépendre du contenant qu'on met dans la bouteille et du producteur hein, qui va choisir ce qu'il aime bien. Réellement, voilà, on ne met pas dans les mêmes bouteilles du vin, de la bière, etc. La question que vous posez me fait penser à l'altérité en fait du verre. Donc c'est sûr que quand il est refondu, il ressort comme neuf. Hein. Faut savoir que les fours chauffent à 1500 degrés, quand nous on chauffe de l'eau à 80 et qui tournent en permanence. Hein, d'où l'énorme consommation des fours de production de verre. La bouteille forcément, donc une bouteille lavée peut se laver jusqu'à 40 à 50 fois d'après les tests. Alors je pense pas qu'on ait déjà lavé 50 fois une bouteille, mais effectivement au fur et à mesure du temps qui passe, on peut voir, en fait, c'est ce qu'on appelle le traitement de surface, des petites traces, etc. En Allemagne, par exemple, les bouteilles, elles ont toutes des traces. Hein. Les bouteilles de bière, elles ont toutes des traces. Ça pose de soucis à personne. Ça montre même que la bouteille a vécu. Et on a déjà eu des témoignages de consommateurs qui disaient « Ah, bah, c'est chouette, cette bouteille a déjà été consommée plusieurs fois. » En France, on en voit encore peu. Hein. Nous, je ne saurais pas dire, parce qu'on ne peut pas suivre, du coup, la bouteille, hein, comme elle ressort comme neuve. Mais on a ces traces d'altérité qui peuvent apparaître.
Une question idiote, est-ce que vous avez envisagé le traitement des bouteilles en plastique?
Eh bien oui, en Allemagne, ils le font aussi, effectivement. On ne l'a pas envisagé parce que c'est une autre machine, c'est un autre outil, etc. C'est peut-être l'avenir du réemploi. En tout cas, nous, on va continuer à remplir cette unité de lavage de contenants en verre. Et puis, voilà, ce qui se fait, en revanche, c'est un secteur dans lequel on n'est pas, hein, mais c'est tout ce qui est les hôpitaux, les écoles, etc. Et il y a des unités de lavage comme ça, de l'inox, par exemple, ou des barquettes. Et là, il y a des lois aussi, hein, c'est ça qui sont passées. Les hôpitaux, ils passent de plus en plus d'être à l'usage, de sortir de l'usage unique. Ça, c'est aussi... c'est le secteur dans lequel on évolue. C'est pas ce qu'on lave, nous, mais on suit de près ça parce que ça participe aussi à ce chiffre du réemploi qui doit vraiment augmenter si on veut baisser notre impact environnemental.
Valérie Duménie, quelles sont les compétences qui vous ont amené à être directrice générale de Ma bouteille s'appelle Revient?
Alors, moi, mes compétences viennent de l'économie sociale et solidaire. J'ai une formation de gestion de projet et j'ai réussi à toujours travailler dans des projets qui avaient un fort impact social, environnemental et économique. Cette plus-value qui, pour moi, est indispensable à ma motivation au travail. Il y a quelques années, j'ai cofondé la société coopérative Village Vivant. Donc, ça m'a appris beaucoup dans la gestion d'une structure. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres fonctions de direction dans plutôt des associations, etc., dans d'autres domaines. Mais qui reste toujours pour moi une directrice générale, c'est quelqu'un qui gère un projet. Alors là, Ma bouteille s'appelle Revient, c'est un gros projet, c'est un beau projet. C'est un projet industriel et territorial. Moi, je viens du monde des sociétés coopératives aussi, donc j'ai cette appétence-là. Et puis surtout, ma compétence, en fait, c'est de révéler le professionnalisme qu'il y a dans l'équipe. Parce que les 18 personnes qui composent aujourd'hui Ma bouteille s'appelle Revient, certains sont là depuis le début. Ils ont des compétences qui sont nulle part ailleurs. Et donc, je viens mettre ça en musique et faire en sorte de développer les partenariats et la connaissance auprès du grand public. Et aujourd'hui, vraiment, notre type, c'est les collectivités. Donc, je lance un petit appel aux collectivités qui entendront cette interview de ne pas hésiter à nous rejoindre.
Vous parlez d'insertion et c'est également aussi ramener un peu la personne face à des responsabilités aussi. Ça, c'est important pour vous que les personnes ont vraiment un rôle précis, responsable au sein de l'entreprise.
Oui, effectivement, ce volet entreprise insertion, il est primordial pour nous parce que on voit arriver des personnes qui ont complètement décroché en fait de la vie professionnelle, qui ont besoin de retrouver confiance en eux, mais aussi confiance dans le fait que travailler, ça peut être chouette. Et donc, c'est ce qu'on transmet au-delà de leur apprendre un métier. Du coup, on a deux métiers actuellement, c'est chauffeur et agent de production. C'est aussi leur et apprendre à vivre en collectivité, à respecter les règles, alors que ça va être des règles de base, entre guillemets, hein, sur les horaires, etc. Mais nous aussi, on a des règles d'hygiène et de sécurité très fortes. Et donc, on va les accompagner dans cette reprise de confiance en soi, aussi, dans cette montée en compétences et enfin dans l'accompagnement vers la recherche d'un emploi autre que chez nous. Parce que ce qu'on leur dit toujours à nos salariés en insertion, c'est que plus vite ils sont partis et plus on est content. Ils nous manquent souvent parce que c'est des forts liens qui se créent. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est qu'ils puissent monter leur projet professionnel en parallèle.
Sur le site, il existe aussi une carte interactive et qui nous indique les points de collecte et les partenaires, hein, qui sont associés à votre entreprise. Je l'inviterai donc les auditeurs à se rendre sur le site mabouteille.org. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble, je rappelle quand même cette inauguration qui aura lieu donc le 2 avril à Chabeuil. Il y a une adresse précise pour cet événement?
C'est dans la zone artisanale des Gouverneaux. Si des personnes souhaitent avoir des renseignements et qui ne font pas partie du réseau actuellement, ils peuvent écrire à communication arrobasma-bouteille.org ou trouver, voilà, ils trouveront le contact sur le site internet. Et effectivement, je rebondis quand même sur cette cartographie qui est chouette parce que c'est une cartographie qui est aussi nationale, hein, qui est rattachée aux autres partenaires qu'on a dans le reste de la France et qui permet de voir où est-ce qu'on peut acheter des bouteilles et où est-ce qu'on peut les déposer.
Valérie Demini, merci beaucoup d'être venue sur RDWAR pour nous parler donc de cette entreprise. Ma bouteille s'appelle Reviens.
Merci à vous pour votre accueil.
Soirée.
Merci.
Au revoir.